VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Burkina Faso, le 29 novembre, les Burkinabés se rendront aux urnes pour choisir leurs députés et aussi le successeur de l'ex-président Blaise Compaoré, chassé du pouvoir en octobre 2014. Sur place, des observateurs s'activent pour le bon déroulement de ces élections. C'est le cas des observateurs de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au micro de notre envoyé spécial, Bagassi Koura, le chef de la délégation des observateurs de l'UEMOA, Christophe Tchao, explique que sa mission est prête pour les élections du 29.
Oui, nous sommes prêts. Comme je vous l'ai dit, depuis le 20 novembre, nous sommes arrivés et nous sommes aujourd'hui bien organisés. On a mis tout en place pour un bon suivi de ces élections-là. Nous sommes entièrement prêts et nous pensons que le travail que nous sommes en train de faire va porter ses fruits. Nous sommes 14. Nous sommes 14 venant de 7 pays de l'UEMOA et pour cette observation, pour ces élections-là.
Voilà, c'était Christophe Tchao, président de la délégation des observateurs de l'UEMOA, 14 parlementaires de la sous-région au total. À l'approche de ces élections au Burkina, la sécurité a également été renforcée dans la capitale burkinabé. Les précisions de notre envoyé spécial Bagassi Koura au micro de Jean-Roger Bion.
Oui, c'est un communiqué du ministre délégué à la sécurité, Alain Jean-Claude Zagré. Un communiqué qui rappelle aux populations que le couvre-feu est toujours maintenu, le couvre-feu qui a été instauré depuis le coup d'État du 16 septembre dernier, qui va de 1h du matin à 4h du matin. Donc le ministre de la Sécurité qui rappelle donc cette mesure qui date depuis septembre. Mais aussi, le ministre de la Sécurité rappelle que les contrôles d'identité seront désormais organisés de jour comme de nuit. C'est ce que souligne le communiqué par les forces de sécurité. Donc en ce moment, dans les rues de Ouagadougou, à chaque carrefour, il y a des forces de sécurité qui contrôlent non seulement les pièces d'identité des passants, mais aussi des véhicules qui sont passés au crible. Les forces de sécurité qui fouillent les véhicules donc pour s'assurer que ces élections se déroulent dans la quiétude totale.
Alors, est-ce que ces mesures de sécurité sont un peu liées à ce qui s'est passé au Mali?
On ne peut pas vraiment le dire. Comme je le disais, il y a eu ce coup d'État depuis septembre, ce couvre-feu qui a été instauré et depuis des mois, donc ce couvre-feu a été maintenu. Et bien sûr, on ne peut pas passer sous silence ce qui s'est passé à Bamako et aussi dans la sous-région. Et donc, les autorités ont certainement tous ces événements en mémoire et c'est pourquoi certainement ces mesures ont été renforcées. N'oubliez pas qu'on avait dit que des forces étrangères avaient été recrutées pour participer au coup d'État ici. Et donc, toutes ces informations contribuent bien sûr à expliquer peut-être cette décision du gouvernement burkinabé.
Notre envoyé spécial au Burkina, Bagassi Koura, joint à Ouagadougou par Jean-Roger Bion. Mali, en plus du deuil national de 3 jours décrété après l'attaque terroriste du 20 novembre à l'hôtel Radisson Blu de Bamako, le gouvernement malien a instauré un état d'urgence de 10 jours sur toute l'étendue du territoire. Maître Amadou Thiolé Diara, professeur d'enseignement supérieur à la faculté de droit privé de l'université de Bamako, explique au micro de Modibo Dembélé la portée de cette mesure d'exception.
Les instruments de la République n'ont pas jusqu'à présent pénétré les larges marches qui se trouvent au Mali. Nous devons à présent continuer la sensibilisation de ces mesures-là, de les expliquer aux populations en français et dans toutes les langues vernaculaires de ce pays. C'est à ce prix que nous parviendrons à faire accepter qu'il y a effectivement une menace terroriste qui pèse sur les populations et cette menace terroriste ne connaît ni pauvres, ni riches, ni lieux populaires.
Quel pourrait être le rôle de la coopération régionale et sous-régionale dans la lutte contre le terrorisme?
Il y a la coordination entre les différents services de police et de sécurité. Le Nigeria ne peut pas lutter seul contre Boko Haram sans coordination avec les pays comme le Niger, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Tout comme nous, il nous est difficile aujourd'hui de lutter contre le phénomène du terrorisme sans rapport avec l'Algérie, la Mauritanie. Nécessité aujourd'hui que les chefs d'État ont senti et ils vont bientôt, semble-t-il, se réunir sur la question.
Maître Amadou Thiolé Diara, professeur à la faculté de droit privé à Bamako. Afrique de l'Ouest toujours, appel à l'aide du Libéria aux États-Unis pour faire la lumière sur de nouveaux cas d'Ebola confirmés la semaine dernière. Les précisions de Michel Joseph.
Deux experts des centres américains de contrôle et de prévention des maladies s'apprêtent à se rendre au Liberia, a fait savoir le docteur Francis Katay, au responsable de la santé et chef intérimaire du programme libérien de gestion des cas de fièvre hémorragique. Leur mission, faire la lumière sur 3 nouveaux cas détectés plus de 2 mois après que le pays a été déclaré exempt d'Ebola. Le premier malade est un adolescent de 15 ans, habitant Monrovia, la capitale. Son père et son frère ont eux aussi testé positif au virus Ebola et ont été acheminés vers un centre de traitement, en même temps que sa mère et 2 autres enfants de la famille. Selon le ministre libérien de la Santé, que cite l'agence AP, plus de 150 personnes courent des risques du fait des nouveaux cas, y compris une dizaine d'agents de santé. Les nouveaux cas libériens ont été annoncés quelques jours après que la Guinée, point de départ de l'épidémie, a annoncé n'avoir plus de cas, entamant le compte à rebours de 42 jours avant d'être déclaré libre de l'Ebola.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Burundi, un policier, un client, tué lors de l'attaque au fusil d'assaut d'un bar de la commune de Gisugu. C'est ce qu'a annoncé mardi un responsable local, une première dans l'est du Burundi depuis le début des violences liées à la contestation du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Les violences liées à la crise ont déjà fait plus de 240 morts selon l'ONU. Et la communauté internationale craint qu'elle ne débouche sur des exactions à grande échelle 10 ans après la fin de la guerre civile dans un pays dont l'histoire post-coloniale est marquée par des massacres entre la majorité Hutu et la minorité Tutsi. Le président américain Barack Obama a d'ailleurs imposé des sanctions contre 4 Burundais pour leur rôle dans les troubles actuels dans leur pays. L'ordonnance publiée hier par la Maison-Blanche parle des restrictions de circulation et de gel des avoirs. Lionel Gaïma.
L'ordonnance du président Obama gèle tout avoir que les 4 pourraient avoir aux États-Unis et leur interdit l'accès du territoire américain. Sont concernés Alain Bougnoni, ministre de la Sécurité publique, Godefroy Bizimana, directeur adjoint de la police nationale, Godefroy Niyombare, ancien chef du renseignement, et Cyril Ndayirukiye, ex-ministre de la Défense. Les États-Unis accusent Bougnoni et Bizimana de mener des opérations pour intimider et réprimer les opposants au président Pierre Nkurunziza. Quant à Niyombare et Ndayirukiye, Washington leur reproche d'avoir contribué à l'instabilité au Burundi en tentant de renverser M. Nkurunziza en mai dernier. À noter que l'Union européenne et l'Union africaine ont déjà pris des sanctions contre les mêmes 4 Burundais. Dans une déclaration hier, le porte-parole du Conseil national de sécurité, Ned Price, a exhorté toutes les parties en présence au Burundi à rejeter la violence et à participer au dialogue sous la médiation internationale et à l'étranger pour sortir de la crise. Il a averti que les États-Unis pourraient prendre des sanctions contre toute personne qui bloque les efforts de paix ou a recours à la violence.
Actualité américaine toujours, entretien ce mardi à la Maison-Blanche entre le président Barack Obama et son homologue français François Hollande. Plus de détails avec John Lindon.
Les deux leaders discuteront du renforcement de la coopération au sein de la coalition dirigée par les États-Unis qui mène depuis plus d'un an des raids aériens contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie. Avant de quitter Paris pour Washington, le président Hollande s'est entretenu lundi à l'Élysée avec le premier ministre britannique David Cameron. Ce dernier s'est engagé à étoffer la coopération avec les alliés du Royaume-Uni contre les terroristes. Nous faisons face à une menace commune et nous devons partager les informations et les renseignements afin de mieux nous protéger contre ces terroristes brutaux. Le Royaume-Uni et la France le font déjà, mais aujourd'hui nous avons convenu d'intensifier encore nos efforts et de travailler plus étroitement avec les voisins européens. David Cameron a indiqué qu'il demandera au Parlement britannique d'approuver l'expansion du rôle du Royaume-Uni en Syrie pour y inclure des raids aériens. Le président Hollande a fait savoir de son côté que l'armée française intensifiera ses raids aériens en Syrie.
L'enquête sur les attentats de Paris, l'homme soupçonné d'avoir fourni un logement de repli au djihadiste belgo-marocain Abdelhamid Abaoud après les attentats va être présentée à un juge aujourd'hui. C'est ce qu'a indiqué une source judiciaire. Le logeur présumé, Jawad Ben Daoud, avait été arrêté le 18 novembre à proximité immédiate de l'appartement de Saint-Denis, banlieue nord de Paris, pris d'assaut par des policiers d'élite. Et pour terminer, l'aviation turque a abattu mardi un avion militaire qui aurait violé son espace aérien près de sa frontière avec la Syrie. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.